Bonjour et bienvenue sur Bagro.point pour cette deuxième partie de podcast sur la série Vampire, aka Darkstalkers, où après avoir parlé de la genèse de la série avec le premier vampire et de sa suite, demi-suite Vampire Hunter, nous allons maintenant parler du vrai troisième épisode et de ses suites Vampire Savior, Vampire Savior 2 et Vampire Hunter 2. Oui, tu voulais dire Valentin ?
Bah alors pour faire genre qu'on tourne pas le même jour, on a changé les t-shirts. Mais comme c'est du podcast, vous le verrez pas.
Et oui, donc si vous, comme le suggère Valentin, si vous n'avez pas vu nos t-shirts de l'émission précédente, je vous invite à aller l'écouter pour les voir et vous renseigner un petit peu sur toute la série Vampire et sa genèse, parce que là nous allons parler d'un épisode vraiment en particulier qui est Vampire Savior, l'épisode un petit peu canon, qui est vraiment l'épisode qui a marqué son époque et qui est resté vraiment comme un classique du genre. Donc pour rappel, nous sommes en quelle année quand Vampire Savior arrive ?
Et alors, on est en mai 97.
Déjà, on est quand même déjà un petit peu loin quand même.
Hein. Vachement, enfin, il est sorti vachement tard.
Il est sorti vachement tard en fait. Ouais, ça fait il y a un peu le syndrome Street 3, 3.3, tu sais, quelques années après le...
C'est, là, ils étaient. Enfin, grosso modo, l'idée, c'était de proposer, là encore, enfin, Capcom voulait prouver une fois de plus qu'il restait le roi incontesté. Alors, les fans Arxis et SNK vont encore gueuler au scandale, mais le fait est qu'ils voulaient montrer leur suprématie et faire un jeu qui n'avait encore été jamais fait. Et Savior va jouer ce rôle-là.
Et ils ont pris le temps de le faire parce que. Complètement. On a dit, donc, pas mal dans le précédent podcast, si vous l'avez écouté, vous le savez, que, mine de rien, Vampire s'est construit comme. Sur Street Fighter à la base et même en ajoutant énormément de choses au fur et à mesure, garder une base quand même très Street Fighter-esque.
Alors Savior, c'est 9 mois de développement, mais il faut savoir qu'ils partent pas de rien.
Oui.
Donc, ils ont
beaucoup. Ils ont tous les assets. Ouais.
C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup pour faire un jeu.
Ouais, d'accord. Là, ouais,
oui, parce que.
Ça, ouais.
Alors, quelles sont les nouveautés en termes de contenu pur visuel qu'on peut voir qu'il y a dans Savior ? Combien de nouveaux personnages, par exemple ?
Alors, combien de nouveaux personnages réels ? En fait, on est à 4 nouveaux personnages réels. Il y a des départs. On va revenir là-dessus. C'est surtout une refonte graphique totale. C'est plus le même boss, c'est plus les mêmes backgrounds, c'est plus les mêmes musiques. Enfin, donc, y a vraiment...
Même les persos ont été améliorés. Je crois qu'ils ont plus de frames d'animation. Alors, frame d'animation.
Frame.
Voilà, il y a certains personnages qui ont effectivement, qui ont
ceux du premier qui ont été bien revamp, ouais.
D'accord. Voilà. Alors, ils n'ont pas revu les sprites. Hein. Les sprites sont toujours
identiques. Ils sont les mêmes, mais ils ont rajouté des personnages. Je me souviens, par exemple, la boule de Dimitri, il faisait avec les deux mains dans les premiers, et là, il l'envoie un peu nonchalamment. Par contre, les deux mains, c'est pour la version X de son coup.
Exactement.
Exemple,
la boule n'a plus la même tête non plus.
D'accord. C'est des petits détails comme ça qui.
Exactement, comme l'évolution Street Fighter 2.
Ouais, c'est ça, en fait.
De manière, voilà.
C'est un peu leur 2X, là.
C'est le 2X de Vampire, en fait, en un sens.
Ils réouvrent leur logiciel d'editing, ils rajoutent 2-3 trucs à côté, quelques frames d'animation supplémentaires, ils modifient 2-3 trucs, et allez, la galère. En...
Alors, on a quoi comme nouveau personnage ? Allons-y. Allez-y. Non, bon, là, ils se mettent d'accord. Il y a Well qui
bon, je pense qu'on va, on va commencer par le personnage emblématique de la saga, puisqu'il est au cœur de l'histoire.
Vas-y.
Il s'agit de Jedha.
Ouais.
Alors, Jedha, qui est. Jedha, c'est un démon,
ouais,
il me semble.
Exactement.
Qui a la particularité de faire éclater son corps pour projeter ses membres, donc ses bras, sa tête. De, il se démembre, en fait.
En fait, il se bat avec son sang, pour être exact.
Il se bat avec son sang, c'est vrai.
D'accord. Donc en gros, par exemple, quand il frappe avec sa tête, sa tête est tombe.
Sa tête tombe, c'est le jet de sang voilà, qui va toucher l'adversaire.
Et quand il veut taper avec le bras, en fait, son bras se démembre en plusieurs morceaux.
Il rejette 3 jets de sang et il perd son bras qui repousse derrière. Voilà. Donc il est pas très ragoûtant, ce monsieur. Mais,
il peut t'enfermer dans une bulle de son propre sang. Enfin, c'est vraiment...
Il a une faux.
Il est vachement basé effectivement sur le zoning avec une espèce de grande roue circulaire
qui
tourne sur l'écran. Donc qui en ES va prendre... une taille vraiment respectable sur l'écran pour
chaque personnage. Un bon card.
Il a un dash aérien qui lui permet de voler vers l'adversaire.
Qui tape en plus le dash aérien, si je me souviens bien.
Non, il faut qu'il tape. Il faut qu'il fasse un coup. Hein.
Non, il touche aussi quand tu voles le dash aérien, il touche l'adversaire.
Non, je sais pas.
Quand
je joue pas donc.
Comme il a des ailes très fines, comme il a des ailes en fait très coupantes presque, on va dire, parce que c'est un démon donc il a des grandes ailes, mais elles paraissent presque rigides finalement quoi. Ouais, c'est assez bizarre.
On peut dire que même s'il a une faux, franchement, avec tout ce qu'il a, c'était un vrai lui.
Voilà.
Bah, oh non. Enfin oui, mais non. Enfin,
non mais elle est thème des JC approuvette celle-là.
Et du coup, dans l'histoire, en fait, grosso modo, il réunit tous les Darkstalkers qui jugent dignes, en fait, dans un monde parallèle ou un monde alternatif.
En fait, ce qu'il souhaite faire, c'est en fait, il crée un espèce de fœtus et en fait, il souhaite enfermer toutes les âmes à l'intérieur pour réunir tout le monde pour qu'il n'y ait plus de guerre, grosso modo. Donc, c'est un méchant qui, comme d'habitude, souvent au Japon, en fait,
il
propose. Juste
mégalo, ouais,
voilà.
Les péter les plombs.
Exactement. C'est le côté. Mais si je fais ça pour la bonne cause et qu'utilise des méthodes pas toujours très...
Ouais, ils aiment bien ça, hein, ouais. Notamment avec Gilles et lui maintenant, c'est... Ouais. Voilà.
D'accord.
Oui, vous voulez les enfermer dans ce que dans
le
ce qu'il
fœtus
appelle.
Of God.
Voilà, le fœtus de Dieu
le
dans la version japonaise et dans la version américaine en fait le fœtus du créateur.
D'accord. Voilà. Vous voulez les enfermer dedans pour qu'ils arrêtent de se battre.
Non, bah, en fait, il veut créer un nouveau dieu.
Voilà.
Ah, il veut utiliser les âmes des Darksoulkers et le dieu va pacifier tout
et
le monde.
Et pas que, parce qu'il veut réunir tout le monde. Parce
oui,
qu'il
voilà.
Veut, c'est vraiment le. Donc, il, voilà. Et puis, mais sauf que les Darksoulkers n'ont pas envie de se laisser faire.
Exactement.
Donc, c'est trublion, tu vois.
Donc, ouais. on a enfin, entre guillemets, un vrai grand méchant qui arrive et qui n'est pas juste un type qui arrive et qui bouffe des planètes, quoi.
Voilà.
C'est... Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est pas un méchant. Et
c'est
eux
ça.
Pourraient dire ouais, d'accord, venez, on se met tous ensemble, on fait un dieu comme il faut et on va gouverner, il n'y aura plus jamais un. Non, eux.
Ils en ont rien à battre.
Eux, pour le coup, ils s'en foutent. Laisse-moi tranquille.
Laissez-nous
en fait.
Tranquille.
Moi, je suis Dimitri. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi.
Me mettre avec l'homme crapaud, là, dans le machin. ça va, oui.
D'accord. Je me respecte.
Je me respecte.
Il y a abordé Jedha.
Voilà.
On va passer au prochain.
Il y a Baby Hood.
Baby Bunny Hood en anglais.
Elle s'appelle
Bulleta en japonais. Bulleta. C'est ça. Alors, c'est pas le seul personnage humain du casting.
Complètement humain, si.
Ouais. C'est ça, hein ouais. C'est le seul personnage c'est humain du casting.
Et c'est le plus timbré.
D'accord, oui, en fait, oui, si tu le dis.
Même les Darkstalkers ont peur d'elle.
Alors
oui,
peut-être.
Je parle de folie, vraiment folie.
Ouais, mais
pure.
Parlons un peu de ceux qui ne parlent pas anglais. Baby Bunny Hood, c'est quoi?
En fait, c'est la.
Bah, c'est le petit chaperon rouge, quoi.
C'est le petit chaperon rouge, sauf que dans son petit panier, elle a pas des gâteaux, elle a des Uzis.
Elle a des mines,
elle a des
miettes,
des couteaux.
Elle a des roquettes.
Elle a une pomme, cela dit.
Elle a des bouteilles de champagne aussi qui font anti-air.
Des bouteilles de champagne lance-flammes, ouais.
Voilà.
Donc
elle est accompagnée du chasseur de temps en temps et autres consorts.
Elle a son chien aussi.
Elle a un majordome.
C'est plutôt une armée qu'un chasseur. Parce qu'il y a certains spéciaux
où les sprites en plus font tout l'écran, exactement.
Donc vraiment, ils ont pris vraiment le parti de dire ouais, on va mettre un personnage humain, mais vraiment, c'est le plus psychotique en fait.
Mais dans l'histoire, en fait, c'est grosso modo, c'est une sorte d'espionne en fait qui arrive chez les Darkstalkers et
mercenaire aussi.
C'est mercenaire,
enfin,
ouais, tout à fait.
Prix,
voilà,
ouais,
grosso modo, voilà, elle est employée pour aller
pour leur péter la gueule. Quoi.
Voilà, c'est un peu ça. Mais elle travaille plus ou moins pour Jedha suivant le scénario. Ça, c'est pas très très clair.
Elle fume des cigares quand elle gagne.
Normal.
Ouais, ça,
elle a ses comment dire.
Elle compte sa liasse de billets aussi.
Oui, j'avais oublié ça.
Son majordome qui dit ah Dodo, Ojo, ça va. Puis là, elle fait hop, y a que ça.
Il y a plein de choses comme ça, même sur son sprite, sur ce qu'on voit au niveau de son visage. On voit vraiment des fois son visage changer avec une expression vraiment maléfique de monstre, alors que c'est juste un humain.
Et j'enchaîne là-dessus en disant que les nouveaux sprites qui sont faits, les nouveaux personnages sont juste magnifiques.
Ah,
quand,
ouais.
Quand tu vois qu'il y a des sprites très vieillissants en fait, des premiers, ceux-là sont juste. Bulleta, elle est géniale.
Bah, ceux-là, ça se voit qu'on est en 97 et qu'à côté, ils sont en train de faire Street 3 en fait.
Ouais, c'est ça.
Des fois, je me dis que celui-là. Et pas loin d'être passé sur CPS3 et était foutu sur CPS2 parce que le parc était beaucoup plus grand.
Ouais,
et...
mais bon, le truc, voilà. Moi, je pense qu'il n'a pas été fait sur CPS3 et qu'il n'a pas bénéficié des moyens de Street 3 parce que ce n'était pas une série avec le potentiel économique.
Exactement.
Voilà.
Et c'est dommage, mais voilà.
Ah, si je me souviens bien, Bulleta aussi, elle avait des papillons qui lui tournaient autour de la tête.
Elle a des papillons, elle a
un petit chien
avec
la suie
rouge autour du
tout
cou.
Tout mignon.
Et qui aboie quand elle se prend des coups.
Le petit chien qui flippe quand même quand elle s'énerve. Le petit chien, il n'a pas super confiance en Bulleta.
Voilà, c'est son chien, tu vois, mais il sait que sa maîtresse, elle tourne pas rond.
Syndrome de Stockholm, le chien, je pense.
Et alors, elle se joue comment, en fait, Bulleta, en termes de gameplay?
Mais alors, Bulleta, c'est un perso qui n'a pas de R-dash.
Elle n'a pas de R-dash.
Elle n'a pas de R-dash. C'est un perso qui va se jouer essentiellement en pressing, avec notamment des phases à base de coups de panier dans la gueule et de target. Mais ça, elle peut faire également un peu de keep away, puisqu'elle a donc son lance-flamme, elle sort une bouteille avec un jet de flamme qui monte. Elle a des missiles qui sortent de son sac.
Non,
son
c'est pas de sa jupe que ça sort.
Non, ça c'est des mines.
Ah oui, elle sort des mines de sa jupe.
Ça c'est un coup normal qui n'est quasiment pas utilisé. Donc elle a un lance-missile dans son sac, elle peut tirer ses missiles au sol, elle peut tirer ses missiles en jump, donc ils vont partir du haut vers le bas en diagonale. Et...
Elle a des phases de zoning, des phases de pressing.
Elle a des phases de zoning, elle a des phases de pressing. Elle a un excellent cross-up avec MK d'ailleurs, qui est quasiment la même pose que le MK de Ken dans Street Fighter. Et puis surtout, c'est un personnage qui, en fait, c'est un personnage qui est extrêmement complet au final.
D'accord.
C'est je vais pas dire que c'est le Ryu parce que c'est pas le Ryu du jeu, mais dans l'idée, c'est un personnage qui peut se jouer de plusieurs manières différentes et qui au final est suffisamment complet pour qu'entre les mains, même s'il n'est pas top tier on va dire, entre les mains d'un joueur expérimenté par exemple comme Sako, qui est un des joueurs emblématiques de Vampire Savior au Japon, ce personnage est très 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 fort.
D'accord, ok.
Avec un infini qui est tellement difficile à faire, mais lui il le fait tranquillement.
Non, mais voilà. Quoi, tranquille. Il y a quoi d'autre comme personnage ?
QB.
Ah, qui s'appelle Queen Bee.
Queen Bee.
Qui est une femme. Attention, une femme.
Une femme abeille.
Non, c'est une abeille tout court.
C'est une abeille tout court,
puisqu'en fait, elle, son but dans l'histoire, c'est très simple, c'est bouffer tout le monde parce qu'elle veut faire grandir son essaim.
D'accord.
Voilà, elle bosse plus ou moins pour le boss de fin, en fait, qui a réussi à lui faire miroiter que si jamais elle venait avec, ce serait plus ou moins la reine, etc. Donc elle fait plutôt de l'équipe, partie de l'équipe des méchantes.
D'accord. En gros, elle veut le miel pour tout le monde. Voilà. Quoi.
Et encore une fois, des méchants.
On s'est compris. Côté
de ceux qui sont contre les personnages du jeu.
Alors, elle a quoi comme particularité, Queen Bee, en termes de gameplay ?
Elle rush toute la vie.
Alors, Queen Bee, elle a un dash qui se focus sur la position de l'adversaire au moment où tu déclenches ton dash.
C'est-à-dire
que si ton personnage il est au sol et que toi t'es en l'air, au-dessus de lui, tu vas faire deux fois avant et en fait elle va se jeter sur l'adversaire.
D'accord, vers le bas.
Vers le bas, exactement. En fait, elle va traquer son adversaire dans ses dashs. Le problème, c'est qu'elle le traque pas tout le temps. Si par exemple un perso fait un saut c'est assez rapide, donc il va faire son ellipse, il va partir en l'air, il va retomber. Toi, tu vas déclencher ton dash et il va prendre à l'instant T où le dash est validé, elle va prendre la position de l'adversaire, elle va se diriger dessus. Mais l'autre, il aura bougé entre-temps. Donc c'est un perso voilà, de rushdown, avec beaucoup de pokes, énormément de pokes, avec des coups normaux qui ont d'excellentes priorités. Il y a des coups qui ont de très bonnes portées, comme son MP, par exemple, qui fait presque la moitié de l'écran. Et c'est un perso qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup se jouer avec les chain combos, d'ailleurs.
D'accord. Ok. Ah bah écoutez,
j'ai même envie de dire que c'est le personnage qui ne peut presque se jouer qu'avec ses chaînes combos si on souhaite vraiment.
Elle va se jouer beaucoup avec ses chaînes combos, mais elle peut également vachement temporiser avec ses normaux en mid-screen. Donc son MP, son bas MP, et c'est un perso qui a des dash attaques qui sont très très forts également au sol.
Donc,
Parce qu'en fait, il n'y a que ces air dash, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi, mais il n'y a que ces air dash qui se jettent sur l'adversaire. D'accord. Les dash au sol, c'est une course
c'est
classique. Avec une partie du dash qui est cancellable, qu'on peut annuler. Enfin, on ne peut pas l'annuler, excusez-moi. Non, mais...
Oui, on peut utiliser un coup pendant.
On peut utiliser
le...
un coup dans une certaine période du dash, mais si on ne si le fait pas au bon moment, elle va juste dasher et puis elle va s'arrêter devant l'adversaire sans rien faire, elle est très punissable.
D'accord.
Et c'est un perso qui est très fort, puisque grosso modo, c'est le troisième personnage du jeu dans les tier list actuelles et dans les tier list depuis pas mal de temps.
D'accord, ok. Ouais,
mais c'est. En fait, je trouve que c'est un top tier qui a été très bien fait. En fait, il est arrivé donc à la fin. En gros, de la création de toute l'IP, de toute la série.
Bah, sauf erreur de ma part, en plus, c'est même le dernier personnage qui est fait, enfin, en termes de création, qui est fait.
Qui est fabriqué.
Alors, c'est l'avant-dernier, parce que le dernier, on va en parler dans un court instant, mais c'est un peu particulier. Mais donc, c'est le dernier vrai nouveau personnage.
Voilà. Après, derrière, donc, il bénéficie vraiment, ça cristallise vraiment tout le système de jeu de vampires et leur vision, en fait.
D'accord.
C'est, tu vas attaquer tout le temps, tu vas vraiment mettre la pression.
Et j'ai même envie de dire Vampire Savior, parce qu'elle est vraiment basée sur le gameplay de ce jeu-là.
Ah, d'ailleurs, aussi bien au niveau de ses coups spéciaux que de sa philosophie, elle est vraiment, vraiment, vraiment vampire à fond.
Voilà. Donc, on a ça, mais de l'autre côté, pour l'amener dans le top 3 dont parle Valentin, c'est pas entre toutes les mains.
Ouais,
elle est très dure à jouer.
C'est pas du tout un top tier gratuit, en fait. Ça monte dans cette tier list-là parce que voilà, grâce à son dash dont on a parlé, qu'on peut cancel, mais surtout, quand tu te manques,
tu te fais défoncer.
Ceux qui essayent de faire ça, qui ont fait ça dans une vidéo, qui essayent de le faire eux, mais ils se prennent des trains sur la tronche tous les jours.
Ah oui, c'est moi.
C'est ça qui est génial dans la manière d'avoir créé ce personnage-là.
D'avoir créé le perso, ouais.
C'est que voilà, tu peux l'amener super haut, il peut t'emmener avec lui super haut, mais il faut s'investir.
D'accord. Et le dernier personnage, c'est donc...
Alors le dernier personnage, c'est un personnage un peu particulier parce que quand ils ont créé la série Vampire, ils avaient dit il n'y aura pas de doublon du tout. Et c'est vrai que tout au long de la série, effectivement, que ce soit dans le premier, le deuxième... Il n'y avait pas de doublon. Et là, en fait, ils vont nous pondre Lilith. Lilith, c'est...
Color swap.
Sans les boobs.
C'est la sœur maléfique, entre guillemets, de Morrigan.
C'est pas une partie d'elle, en fait, normalement.
Ça dépend, en fait, sur quel drama, en fait, tu le gères. Mais effectivement, en fait, c'est sa sœur.
Parce qu'il y a des versions où c'est sa sœur. Voilà,
c'est son côté maléfique. En tout cas, dans tous les cas de figure, ils vont pour fusionner à nouveau, ça, c'est sûr et certain.
Oui, voilà.
C'est ouais, ils veulent fusionner les deux personnages, quoi. D'accord.
Alors, Morrigan, oui, Lilith, pas vraiment, parce qu'elle est très contente, en fait, d'avoir pris son indépendance, mais elle va quand même sauver sa sœur dans l'histoire. Enfin, bon.
Et Lilith, elle est comment comme personnage? En fait, elle ressemble beaucoup à Morrigan en termes de design, mais au final,
no
c'est
boobs
une, c'est, alors, une design, c'est une Morrigan petite, en fait.
C'est une Morrigan petite, avec des cheveux courts, sans seins, avec le côté garçon manqué, mais très, très écolière dans son comportement, d'ailleurs, dans tous ses coups, et c'est vraiment, c'est une sorte de Morrigan entre guillemets, qui est présentée comme une Morrigan moins forte. Ses boules de feu sont un peu comme Dan, elles vont pas loin, elle a un hurricane kick, enfin il y a des trucs qui sont très choto, mais en fait c'est pas un personnage qui est faible du tout, en fait, quand il est bien pris en main. Ça fait pas partie des top tiers sur les tier list, mais c'est un personnage qui a énormément de possibilités et qui est surtout super fun à jouer.
D'accord.
Ouais, et pour le côté design, en fait, c'est la Morrigan de fin 90, en fait. On voit que les goûts commencent à changer.
À changer voilà. Un peu,
au
ouais.
Niveau des joueurs et de ce qu'ils veulent
au niveau
voir.
Des japonais, ouais, voilà, ils aiment de plus en plus jeunes. Hein.
Exactement.
Ils aiment de plus en plus le moe, c'est l'arrivée du moe, des trucs comme ça.
Il n'y a jamais eu autant de dojin, d'ailleurs, à l'époque.
que
quand Lilith est sorti, ça...
La fesse cachée de vampire.
Oui, parce qu'au final, c'était un jeu avec des personnages... tous plus adultes finalement, il n'y avait pas d'enfants et tous très différents, mais même tu oui, regardes même les adultes. Femmes dans
c'est des femmes.
C'était des femmes quoi, bah c'était ouais, Morrigan ouais. C'était vraiment une femme, c'était pas une enfant, une adolescente,
en fait, c'était la femme en fait.
Oui, voilà,
voilà peu, techniquement ouais. Il y avait c'était la part féminine du jeu, c'était la
Felicia, même Felicia ou même Sienko, c'est des femmes vraiment d'âge déjà bah, Sienko très avancé on va dire
ouais,
mais... excusez-moi
et puis là voilà là
c'est une mifle Laylay, c'est une mifle
là il nous rajoute deux gamines voilà. Pas Bibiude, elle est âgée dans le truc, il me semble, mais elle ouais. A quand même une gueule de gamine. Quoi.
Ouais. Ouais. D'accord, ouais. Donc c'était la part, ils ont rajouté une petite part de mignon, enfin mignon creepy un peu, quoi.
Ouais,
hein,
voilà,
pour
ouais.
Rester dans les délires de vampire. D'accord.
Un petit peu louche quand même.
Ok, donc en gros, ok, on a compris les personnages, il y a une petite évolution du graphisme des personnages, de l'ambiance, du public, mais alors, dans le gameplay, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que ça y est, Savior, c'est. Le jeu, c'est le vampire, c'est celui qui va rester. Qu'est-ce qui se passe là?
Oui, mais c'est bourré de trucs, mais j'ai envie de dire que les deux énormes trucs qu'on ne peut pas louper, en fait, le truc qu'on ne peut pas louper, même quand on ne connaît pas le gameplay, clairement, c'est il n'y a plus de gestion de rang comme on avait auparavant sur tous les autres jeux de combat. Aujourd'hui, quand on gagne, en fait, quand on bat son. Tu veux dire un truc peut-être?
Oui, je te coupe. Pas comme dans... En fait, c'est pas tous les autres jeux de combat qui étaient pareils. C'est une petite repompe, si je dis pas de bêtises, ce qu'ont fait nos amis de chez Capcom, là. C'est le système de Killer Instinct qui a été réutilisé, en fait.
Sérieux? Killer Instinct oui. Est sorti en quelle année? 80...
Avant 97, ça j'en
ah
suis
oui,
sûr.
Ah oui, ça c'est certain, oui.
C'est sûr. Donc c'est le système de Killer Instinct qui a été
alors,
utilisé.
Alors, et de quel
là.
Système parle-t-on donc, Seb?
Vas-y, non.
Les mecs, ils font des politesses infinies.
En fait, en gros, au lieu d'avoir un système de room comme on connaît, il y en a un qui tartine la tranche de l'autre, il a plus de vie, et on passe au round suivant, tout le monde la barre à 100%. Là, en fait, tu vas mettre ton adversaire KO, la vie qui te reste... C'est la vie avec laquelle tu vas commencer plus ou moins dans le round suivant. En fait, dans la phase de jeu suivante. Et en plus, on n'a même pas de séquence où l'écran s'éteint et se rallume sur tout le monde remis bien à sa place.
Pas de temps mort.
Là, ton exactement. Personnage qui a gagné, tu peux continuer à avancer, reculer. Je ne sais plus si on peut sauter ou pas. Je sais que tu ne peux plus mettre de coups, mais
tu
es encore mobile.
Tu peux juste avancer, reculer.
T'es encore
non, tu
mobile.
Peux sauter pendant oui, le, pendant tu le down. Hein.
Ouais. Tu, voilà. Tu peux juste pas taper.
Tu peux juste voilà. Pas taper. Donc... On est vraiment t'entends ultra actif. En fait,
en
voilà,
gros,
le personnage n'est pas KO, il est juste down et il se relève.
Exactement.
En fait, en gros, ça fait genre, je te tape, down, toi tu continues de bouger et puis fight, ça reprend tout de suite. Quoi.
Voilà, c'est le personnage qui a mis l'autre par terre, il garde effectivement sa barre de vie. Donc en fait, on a deux pastilles de vie, comme on aurait deux pastilles de furie.
En fait,
exactement.
On ne gagne pas des rounds, on perd des vies finalement. Ouais.
C'est exactement,
ça,
on a des vies.
Ce qui est d'ailleurs, je fais une courte parenthèse, mais ce qui est, c'est que si jamais tu finis entre guillemets la première partie du match avec quasiment très peu de vie, eh ben c'est super chaud de démarrer le deuxième. Hein.
Ouais, ça a pour avantage de comment dire. En fait, c'est aussi une mécanique entre guillemets de comeback qui est super intelligente. T'as gagné ton round et on te met très très vite en mauvaise situation dans le round suivant en fait.
Alors ah bah oui, logique.
Voilà.
Oui.
Et on arrive très très vite à cette situation de on est au dernier round et il y en a un de nous deux qui va vraiment mourir. Donc c'est ça qui est vachement bien. Il y a une tension qui est ajoutée qui n'était pas avant et c'est pour ça que ça s'appelle en plus un down et pas un down
un
et pas un KO parce que en boxe. Quand quelqu'un se mange une droite et tombe par terre, mais n'est pas
KO.
On appelle ça un down.
Il se relève.
Voilà, l'arbitre revient, il le compte. S'il arrive à se relever, on repart tout de suite se battre.
Le KO n'arrive qu'à la fin du seul et unique round, finalement, du match.
D'accord.
Il y a un truc qui a disparu, dont on n'a pas parlé dans le podcast précédent, c'est que dans la version précédente, il y a un système d'auto qui permet en fait aux nouveaux joueurs qui ne connaissent pas du tout la série d'avoir une version easy en fait, des personnages, avec des coups simplifiés, avec une garde automatique, etc.
Sérieux ? Déjà en 94-95 ?
Tout à fait. Et tout ça disparaît complètement de Savior. Savior est un jeu clairement dédié aux gens qui savent jouer.
D'accord.
D'ailleurs, juste pour préciser, quand on était en garde auto, ce qui était bien, c'est que les coups dans la garde, on mange dégâts x2.
Ah bon ?
Ouais, quand tu te fais gratter x2.
D'accord.
Donc voilà,
quand
donc,
en
même
auto.
Là-dessus, ils l'avaient pensé.
Ah, ils avaient bien pensé
c'est pas
la
gratuit.
Contrepartie.
Ouais.
C'est jamais, de toute façon, dans Vampire, c'est jamais gratuit.
C'est jamais gratuit.
C'est ça qui est super.
D'accord. Alors, c'est quoi l'autre truc dont tu allais me dire qui vraiment définit...
Non, bah, c'est l'arrivée de la Dark Force. Là,
alors, c'est quoi ça ? C'est une unité spéciale habillée en noir ? C'est... la façon dont vous le dites, c'est l'arrivée de la Dark Force. Il y a des mecs qui arrivent, tu sais, ils ont des bottes en caoutchouc et tout. Non, c'est quoi ?
Ouais. Valentin, je t'en prie. La Dark Force.
Alors, la Dark Force, je pense que c'est plus ou moins inspiré en fait, des custom combos. En fait, on va grosso modo appuyer sur les deux moyens.
Ouais.
Si je me trompe,
en fait, c'est
deux coups de même valeur avec je crois que certains persos ça change suivant les deux coups de même valeur que tu fais et notamment par exemple Félicia, il me semble que le double n'arrive pas à la même vitesse, donc on va claquer une barre en appuyant sur deux coups de faible, de moyen, de truc, et donc pendant un temps on va avoir un temps pendant lequel on a une particularité du perso qui va le mettre dans une situation particulière, c'est à dire que Félicia va faire venir une copine chaton, QB va voler en permanence. Rikyo va faire venir de l'eau et flotter sur un espèce de crabe, là, un Kabuto, et ainsi de suite, suivant les persos.
D'accord, et en fait, ça change.
Morrigan
se dédouble, ouais, exactement. C'est le plus emblématique, ouais, j'aurais dû commencer par celui-là, effectivement, merci.
Vas-y,
Se dédouble, on a Bouletta, Bibi Hood, qui, elle, tous ces normaux, en fait, ça va devenir des projectiles. C'est vraiment un des des trucs dans Vampire Savior, dans le premier, ça change vraiment la manière d'utiliser le personnage. C'est
deux persos en un.
Ouais, c'est vraiment ouais, là pour le coup.
C'est un court instant, c'est visuel, enfin c'est schématisé comment ? Il y a pas déjà un changement de décor, c'est ça ?
Le fond d'écran qui change, voilà, avec une espèce de il y a le timer et on se pose dans une dimension parallèle avec des couleurs pastel partout.
Pour référence, c'est le changement de fond d'écran un petit peu comme dans Samouraï quand on passe en mode Amakusa, on le voit derrière et on va bientôt mourir. Bah là, ils ont repris un petit peu cette
très
dynamique-là.
Très inspiré des jeux de l'époque. D'ailleurs, le premier Street 3 avec le super art, en fait, changeait le fond de manière assez similaire, finalement.
Ouais. Et puis même surtout, c'est inspiré un petit peu de tous nos magnifiques Sentai, XOR, voilà.
C'est-à-dire ?
Dans l'hyperespace,
ouais.
Où il devient beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort, beaucoup mieux.
C'est de la référence de trop vieux, moi je connais pas X.
Voilà, mais c'est vraiment ce
délire-là,
en fait.
Quoi. Vraiment,
ouais, c'est vraiment ce délire-là.
Ah, le zombie, il était en mode tronçonneuse tout le temps.
Dans Vampire, là, c'était. En plus, c'est vraiment un gameplay différent. Pour entraîner son personnage dans ce mode-là, va falloir mettre des pièces quand même,
ouais.
pour pouvoir se
mais
dire.
D'ailleurs je voulais en parler tout à l'heure et on a enchaîné, mais c'est vrai que Vampire, je pense que très honnêtement, ça a été un jeu extrêmement rentable en arcade parce que vu le rythme des parties, donc voilà, il n'y a pas la coupure du round 2. Franchement, je pense que les gens ont glissé un certain nombre de pièces dedans. D'ailleurs, on se rappelle la finale du Tugeki, c'était en 2004.
Oh là là.
Oui, qui se termine.
Qui a duré 2 minutes.
Ouais.
Deux minutes.
Bonjour, c'est la finale du Tugeki, le plus gros tournoi du Japon. Ah bah c'est déjà fini, voilà, merci d'être venu, c'était sympa. Voilà,
ça va trop vite, en fait,
hein. C'était Tsuya qui avait gagné ou non ? C'était le joueur de...
Hein, j'ai oublié son pseudo.
C'était Tetsuya versus je sais plus comment il s'appelle.
Parce que c'était en un match gagnant et donc ça a terminé.
Ah ouais, voilà, c'était en 2 minutes, direct, c'était fini.
L'intro a duré 10 fois plus de temps que le match.
Mais clairement, les enchaînements vont tellement vite, le rythme est tellement rapide. C'est un jeu, quand c'est tu frénétique. Sais jouer, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas. Une erreur est automatiquement punie tout de suite.
Au moins, c'est au moins la moitié de barre contre un bon joueur qui sait jouer. Ouais.
D'accord.
Minimum.
Alors, il y a quoi d'autre comme nouveauté sinon de gameplay ? Il faut qu'on avance un petit peu.
Une des autres choses, c'est l'arrivée des chains aériens.
des chaînes aériens.
Alors, juste une petite précision, en fait, on pouvait déjà, dans les anciens, en fait, enchaîner dans certains cas de figure, deux voire trois coups, ouais, suivant les personnages et suivant si c'était dans la garde ou pas, et suivant d'où tu démarrais, etc. Mais là, clairement, en fait, on a vraiment un gameplay aérien qui s'y prête complètement.
D'accord. C'est rentré dans le système, bah, c'est ce qu'on retrouvera plus tard
dans tous les Arxis, notamment. Non
dans tous alors, les Arxis, dans tous les Versus. Et...
Oui, alors, sachant que cette partie-là vient du monde du Versus.
De Versus, des X-Men Versus.
Exactement, on y reviendra.
Ou même des X-Men.
Des X-Men tout court, ouais. Oui. D'accord. Ok. C'est à peu près tout ce qu'il y a ou il y avait... Bah, en fait, on reprécise, on a fait une petite erreur tout à l'heure, mais on reprécise, c'est là que la D-Shop arrive, c'est
oui,
ça aussi.
Oui, en effet, elle est arrivée là et pas dans les anciens vampires.
Voilà, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et sinon, Valentin, tu voulais ajouter quelque chose?
Juste que non, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus énormément de nouveautés, c'est juste grosso modo.
Pas, qui, c'est les nouveautés.
Les trois grosses qu'on vient de dire,
c'est
déjà.
Les nouveautés voilà, qui vont effectivement créer vraiment le cœur du jeu, voilà. L'âme du jeu, mais en se basant beaucoup effectivement sur le précédent épisode.
D'accord.
Pour moi, c'est le vrai Vampire 2, ouais.
D'accord. Et il y a un truc aussi auquel je voulais revenir, c'est qu'il y a quand même une énorme différence d'ambiance vraiment entre le 2 et le 3. Enfin, c'est vraiment, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont joué au 2, mais je les encourage vraiment à lancer le 2, ou même Résurrection va sortir, sort même aujourd'hui si on publie le podcast, ou un truc qui est déjà sorti. Quand on joue au deuxième...
C'est combien?
Je t'y connais. Quand on joue au deuxième et qu'on passe au troisième, l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle est complètement folle dans le troisième, alors que dans le deuxième, c'est vraiment finalement pas sage, mais c'est juste... Un décor qui illustre en fait un petit peu le mythe ou le personnage qu'on a, etc.
Le choix des couleurs, les sons qui sont apportés, le choix des personnages, puisqu'il y a beaucoup de personnages qui ne sont plus là, d'autres qui sont là, etc. C'est vraiment un nouveau jeu.
Quels sont les personnages qu'on n'a plus déjà? Donc tous ceux qui ne sont pas finalement des Darkstalkers, donc en gros, Donovan.
Grosso modo, Donovan n'est plus là. Qui c'est qu'on a plus
Phobos.
Encore? On a Phobos qui n'est plus là non plus. On a Pyrrhon. Voilà, en fait, grosso modo, Les grandes nouveautés en fait et en fait de l'épisode précédent des nouveaux, il n'y a que Laylay en fait finalement.
Ok, donc voilà, donc en gros on a à peu près fait le tour, donc Sevior par tout ça en fait.
Alors Sevior c'est ça, c'est aussi plein de personnages cachés en fait,
de variations, enfin en fait des variations sur des personnages existants.
Comment ça, on a des variations? Il y a des versions old à la 2X?
Non, c'est plus alternative. Comme
ou les... extra, plutôt. Il y a des personnages qui sont quand même plus forts. Mais
comme un peu un Shin Guki, quoi.
D'accord.
Tu vois, okay. C'est plus ce genre de choses-là. Genre pour Bishamon, on l'a en Oboro Bishamon, si je dis pas de bêtises.
Mais ils se débloquent comment, ces personnages? Parce que j'ai jamais vu ça, moi.
Alors, il y a des manips à faire, en fait.
Non, sur l'écran de sélection. D'accord, ouais, ok.
Il y a aussi une sorte de... Le nom, je crois, c'est Shadow Galon, aussi.
Ouais, c'est ça.
Où, en fait, voilà, c'est vraiment des propriétés qui changent un petit peu. Mmh. Et il y a aussi d'autres choses...
Enfin, qui sont assez sensibles pour en créer vraiment un nouveau personnage.
Voilà, ouais, là, pour le coup, c'est changement de propriété, ce qui te fait un autre personnage. Et par contre, il y a un truc vraiment ultra spécifique à Vampire qui a été créé, c'est quand on est sur l'écran de sélection de personnages, on peut faire une certaine manipulation pour que, par exemple, à la fin de ton match contre le CPU, ton prochain personnage soit celui que tu viens de battre.
Alors, sauf erreur de ma part, si je dis pas de bêtises, c'est pas dans le Savior, dans la version arcade, mais ça arrive dans le Savior 2, si je dis pas de bêtises.
C'est très possible.
Donc, en gros, celui que tu viens de battre était à nouveau ton adversaire.
Ouais.
Permettait de t'as fait les match-up contre le CPU.
En fait, tu joues le rôle d'une grosso modo du nombre. Et en fait, l'ombre chope le. En fait, tu changes de personnage à chaque fois. Voilà. Il y avait ce système également avec une marionnette. Et dans ce cas-là, en fait, tu jouais le même personnage.
D'accord. Voilà.
Ce qui changeait complètement en fait l'approche du jeu, parce que du coup il fallait vraiment que tu connaisses tous les personnages.
D'accord.
Donc, voilà, c'est complètement, enfin les
c'est mecs un peu pété quand même comme truc. Ça.
Bah, les mecs ont craqué quoi avec tout ce qu'ils ont mis dedans. Pour moi, pour le coup, Vampire, c'est vraiment en termes de contenu, c'est l'équivalent de Samouraï chez Capcom en fait.
D'accord.
Et puis ça rajoute tout ce qu'on n'a pas dit également, mais on parlait d'animation etc, mais des personnages comme Dimitri, comme la momie, ont la possibilité de transformer en fait le personnage sous certains coups spéciaux, ce qui fait que il y a énormément en fait de sprites qui viennent se greffer là-dedans.
On rappelle Dimitri, là, il a une furie qui s'appelle le Midnight Bliss où il attrape quelqu'un, il lui boit son sang et en fait ça le transforme en femme.
en jeune vierge.
En jeune vierge. D'accord.
Voilà. Et il y a tous les personnages en version jeune vierge.
Donc un zombie rocker anglais en jeune vierge, je vous laisse imaginer le.
Et puis il y a plein de choses aussi. Il y a des. J'ai plus exactement les exemples en tête, mais il y a certaines furies qui changent en caractère spécifique. Quand tu termines un personnage avec une furie spécifique,
ouais.
Eh ben l'ending de ton match n'est pas le même.
Ah d'accord, ouais, carrément quoi.
Voilà, genre, donc ils ont fait plein de petites choses.
Les musiques
comme
déjà
ça.
De fin ne sont plus les mêmes, puisqu'en fait quand tu gagnes avec un personnage, c'est vraiment le thème de ton personnage qui revient. On a la possibilité en fait de un petit peu comme finalement dans Mortal Kombat, quand tu fais certains coups spéciaux à la fin, de changer le finish, c'est-à-dire que tu peux couper ton personnage l'adversaire en deux ou etc. Enfin des sprites que tu ne verras que dans certains cas de figure et d'accord. Que si jamais c'est le dernier moment.
Ok, d'accord. On va peut-être parler, avant de finir, des deux add-ons qui sont sortis, qui s'appellent Vampire Savior 2 et Vampire Hunter 2. Alors, ça a l'air d'être un petit peu un fléau sur la série Vampire, au final, parce qu'on a dit du deuxième que c'était un peu une version 1.5, et là, on va dire qu'après le troisième, en fait, il y a eu une version 3.3, une version 3.6, quelque chose comme ça.
Non, c'est plus Pokémon Bleu, Pokémon Rouge, là.
Ouais. Grosso modo, on est au mois de septembre, toujours de la même année, on est toujours en 97.
Ouais.
Et moi, je vais être très honnête avec vous, c'est deux jeux auxquels j'ai, moi, très peu joué, et sur lesquels j'ai très peu de retours. Il n'y a pas beaucoup de différence, en fait, en termes de gameplay, on en discutait avec Wael tout à l'heure. Lui, il va vous expliquer en fait les quelques différences qui existent entre le Savior et le Savior 2. C'est surtout une question de personnages. En fait, il y a des personnages qui apparaissent dans un cas et pas dans l'autre. Alors, pourquoi est-ce que par contre, Hunter 2, moi, je l'explique toujours pas aujourd'hui. Je comprends pas le choix de Capcom.
Alors, Hunter 2, est-ce qu'il se rejoue comme Hunter 1er avec
non,
le vrai système de rende ?
Justement, non.
Non, pas du tout. C'est juste le fait d'avoir le cast.
De Hunter dans le système de Savior.
Voilà, et Vampire Savior 2, on a vraiment tout le cast de Savior.
D'accord.
Voilà, donc c'est vraiment juste ça, il y a quelques personnages différents entre les versions.
D'accord,
c'est juste ça. Voilà, à ce niveau-là, entre Vampire Hunter 2 et Vampire Savior 2.
C'est même le contraire d'ailleurs, parce que c'est dans Savior 2 qu'on a les personnages en fait finalement de Hunter, et dans Hunter 2 qu'on a les personnages de Savior. Enfin, en plus, c'est même
ça
pas.
Ça veut rien dire comme truc là.
C'est même pas très logique.
C'est pas très logique quoi.
Voilà, d'accord. Là-dessus, enfin.
Et qu'est-ce qui change concrètement alors sur ces deux versions finalement ?
Déjà, ce qui change entre le Savior et le Savior 2 Hunter 2, d'accord ? La gestion de la Dark Force n'est pas exactement la même. Déjà, on claque deux barres au lieu d'en claquer une pour l'activer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les coups spéciaux vont juste être plus puissants. On n'est plus du tout dans la logique de ouais, tous mes coups sont changés. Non. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus plan-plan, on va dire.
C'est juste une version plus forte.
Juste la barre de rage activée, tes coups arrachent plus et tu subis moins de dégâts.
C'est juste ça.
Il y a ça plus une subtilité de la vie blanche ou la vie rouge dont on parle à chaque fois, une fois qu'on s'est mangé les coups, celle-là disparaît totalement.
D'accord.
Voilà. Donc on a ça. Et le truc qui est super, c'est qu'on a enlevé quelque chose. Ils ont enlevé les Aerial Chain dans Vampire Savior 2.
D'accord. Donc en gros, ils ont.
Savior 2 ou Hunter 2 du coup ?
Les deux.
Les deux.
Donc en fait, ils ont viré la Dark Force qui faisait une des forces du jeu dans Savior 1. Enfin, ils l'ont changé en juste un power-up à la con. Mm-hmm. Et ils ont viré les Chain Combo en l'air, quoi.
Ouais.
Mais quelle est la logique ?
Quel est le fuck ?
Bah, oui.
Alors là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui pourra répondre. En tout cas, les Japonais ont grosso modo eu à peu près la même réaction que nous, c'est-à-dire que le jeu qui est toujours joué à l'heure actuelle, c'est Savior.
Ouais, oui. Les deux autres ont été laissés tomber très vite.
Donc, ils avaient fait un rééquilibrage assez douteux au final. Donc, ils avaient retouché au fondement de pas mal de persos, ce qui a foutu la merde aussi. Les deux sont moins intéressants visuellement, c'est les mêmes avec des palettes swap pour les décors.
Ils sont pas très jolis en plus, les palettes swap des fois.
Ils sont assez flashy en fait. Ils sont partis dans un délire un petit peu psychotrope, substance illicite.
Ouais, un petit
peu. Le seul truc qui est vraiment sympa dans les jeux, c'est les intros. Les deux intros des deux jeux sont vraiment sympas.
Voilà, c'est tout.
C'était le budget en fait.
D'accord, et donc ils sont sortis les deux en même temps ?
Oui, tout à fait.
Le même jour, les deux versions,
parce que
Savior 2, Hunter 2.
Souvent, les gens se posent la question de savoir lequel est sorti avant l'autre. En fait, ils sont sortis en même temps.
Le même jour, trois mois plus tard, le mec te sort deux nouvelles versions d'un jeu, quoi.
Exactement.
Bon, mais les mecs, on vous a vendu un jeu d'arcade à 2000 euros, puis on en sort deux autres toujours à 2000 euros ben en septembre, trois mois plus tard.
Et puis, si tu veux tous les personnages, il faut vraiment que tu aies les trois.
Et tu peux pas jouer aux trois en même temps, ça sert à rien.
D'accord. Donc, je crois qu'on a un peu fait le tour. Alors, est-ce qu'on peut encore ajouter quelque chose, l'héritage Savior, il y a eu des portages ensuite de Savior sur d'autres consoles.
Il y a eu des portages assez même pas très rapidement en fait, c'est la version Dreamcast en fait qui permettait de choisir en fait son style de jeu. Est-ce que vous vouliez jouer au format Hunter, est-ce que c'était Savior ou etc. Enfin, il y avait toutes les versions en fait des personnages, et puis il y a surtout la compile qui est sortie sur PSP et qui permet d'avoir tous les jeux en fait en un seul, qui est assez sympa.
La version PS2 également, qui avait une espèce de conversion arcade perfect avec les deep switch pour faire ses réglages particuliers, pour retrouver le feeling arcade, la révision arcade qu'on voulait. Les conversions aussi sur Saturn et PlayStation. Bon, surtout sur Saturn, parce qu'avec la cartouche de RAM, on avait...
Alors, toutes les versions ne sont pas sorties sur Saturn et sur PlayStation. En fait, ils faisaient grosso modo à chaque fois, une fois l'un, une fois l'autre. En fait, il y a le Savior qui est sorti sur les deux.
D'accord, ok. Et donc là, la dernière sortie en date, sujet de ce podcast aussi, en un sens, c'est qu'il y a Vampire Hunter et Vampire Savior, donc le deuxième et le troisième, qui sortent dans une compilation qui va sortir sur le Xbox Live et le PlayStation Network, qui s'appelle Darkstalker
GGPO
Résurrection. Darkstalker's Résurrection.
Darkstalker GGPO.
Et qui comprend du jeu en ligne, pas mal de trucs en plus, donc. Et,
mais
qui,
pas seulement.
Qui serait un petit peu la bêta-test auprès du public, on va dire, pour un éventuel vrai quatrième épisode de Vampire.
Mais, alors, ouais.
Mais est-ce que, au vu de tout ce qu'on a dit, honnêtement, est-ce que vous y croyez, vous ?
Alors, si tu me poses la question à moi, très honnêtement, c'est un jeu qui rebutera plus d'un joueur, parce que c'est un jeu qui demande réellement de l'investissement. Tu peux pas juste jouer un petit peu à Savior. T'es obligé de t'investir un minimum pour commencer à vraiment à comprendre les tenants, les aboutissants. Un jeu comme Street, c'est un jeu, tu peux y jouer de manière amateur. Voilà, ça se joue sans problème. Savior, pour comprendre vraiment les fondements de jeu, tu es vraiment obligé de t'investir.
D'accord. Donc, toi, Wael, Darkstalkers 4, tu veux y croire ?
J'ai super peur, parce que les craintes qui ont été énoncées là par TMDJC, je suis d'accord, mais comme Capcom, c'est pas des abrutis finis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rendre le jeu beaucoup plus facile d'accès.
Ils vont le tailler à la serpe, en gros, quoi.
J'ai super peur de ça. Moi,
je pense qu'on peut en faire je pense qu'on peut faire un truc plus simple que Savior sans en perdre l'essence. Maintenant, le risque, c'est vraiment de quitter ce qui fait vraiment la force de Savior pour faire des raccourcis à n'en plus finir.
Parce que si on veut pas repasser, par exemple, si un nouveau Darkstalkers 4 arrivait et que c'était au final un Hunter 3, est-ce que ce serait vraiment intéressant?
Moi, je pense que c'est une erreur de faire
ça.
C'est franchement...
Parce que l'héritage, c'est Savior, finalement.
Ce serait quand même un moindre mal par rapport à ce que je peux imaginer.
Ouais.
Où vraiment, ils vont saccager le truc pour le faire vraiment casual friendly, et où même, on en a parlé depuis le début, toute la logique de... Je vais rusher, c'est tout le temps l'attaque, c'est tout le temps l'attaque.
C'est pas de jeu de mi-distance, on le neutralise directement.
Voilà, j'ai peur de ça. Moi, j'ai peur qu'ils enlèvent même ça. S'ils le gardent, ça, je suis ouvert. Hein. Faut pas,
non plus être réfractaire à tout. Quoi.
Et puis, faut pas se leurrer. Le jeu n'a pas marché.
Oui.
Vampire n'a pas marché. Il y a peut-être une raison aussi. Il était peut-être trop compliqué. À la fin, même si nous on adore tout ça, c'est génial, bah il y a un moment, si la porte à l'entrée est trop petite, bah les gens viendront pas jouer.
On reprend l'exemple dont on parlait la dernière fois d'Art of Fighting. C'est un jeu que les gens connaissent parce qu'il y a King of Fighters, mais des vrais joueurs d'Art of Fighting, il y en a pas beaucoup.
Il y en a quasiment pas.
Parce que c'est un jeu qui est ultra compliqué d'accès, et Savior a une problématique qui est assez similaire là-dessus.
D'accord. Bon, bah écoutez...
Non, c'est pas fini. Ça fait une semaine et demie que t'as Darkstalker Résurrection, tu vas nous parler de la compile, un peu. Tu vas faire ton boulot, journalisme total, bordel.
La compile Darkstalker Résurrection, en fait, propose donc le deuxième et le troisième épisode. Et le deuxième épisode, en fait, le jeu est scindé vraiment en deux, c'est-à-dire qu'on a un menu vraiment avec des modes de jeu, donc solo, multi... tutoriaux, défis, machin, etc., options. Et en gros, les deux jeux sont extrêmement séparés. C'est-à-dire qu'on ne va pas genre lancer un vampire et ensuite, comment dire... Donc si vous entendez un bruit bizarre, c'est le chat de Valentin en train de mourir derrière. On ne va pas lancer un seul jeu et ensuite sélectionner son mode de jeu. On a les deux jeux séparés avec deux menus séparés. On appuie sur Select sur la manette. Et en gros, le menu change, l'habillage change un petit peu. Et voilà. Mais là où c'est bien fait, c'est que justement, là où j'ai un petit peu espoir, justement, après avoir vu cette version Résurrection, c'est qu'ils ont mis des tutoriaux dans le jeu, qui enseigne justement un petit peu toute la caractérisation dont on a beaucoup parlé dans ces deux podcasts. Par exemple, Queen Bee, la première chose que tu apprends quand tu prends Queen Bee dans le tutoriel, c'est qu'elle a un dash qui suit l'adversaire. Elle peut rester un petit peu en l'air, elle peut voler un petit peu en l'air et se protéger. Et ils t'apprennent à faire, par exemple, des mix-up dash, coup, dash, bas ou dash, shop spécial, par exemple. Ils t'apprennent ce genre de choses qui est en fait allié la théorie du jeu avec une vraie pratique, et en plus il faut le répéter plusieurs fois et pas juste le faire une fois, donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a le background du jeu, genre toutes les anecdotes sur les personnages sont dans le menu principal, tu peux laisser tourner le menu, les artworks qui changent, et il y a des petites phrases sur le background du jeu qui tourne. Donc
ça, c'est bien,
t'as l'impression qu'il y a une espèce dans Résurrection, qu'il y a une volonté de faire apprendre le background et apprendre l'hyper caractérisation qui jusque là est un peu détenue, on va le dire, par les productions Arc System Works ces dernières années, qui, on a oublié de le préciser, mais Guilty Gear, Arc System en général, est héritier complètement de Vampire, de Vampire. Donc résultat, on a l'impression qu'il y a un travail, en tout cas, de Capcom sur Résurrection, en tout cas, qui est fait pour apprendre le background du jeu, pour vraiment débroussailler un petit peu et dire, regardez, chaque personnage a son petit truc à lui, donc vous pouvez l'essayer. Et dans le deuxième, dans Hunter, c'est des défis tout bêtes, comme on a dans tous les jeux, genre enchaîne trois coups spéciaux, alors que quand tu arrives dans Savior, c'est yo coco, alors je vais t'apprendre avec Dimitri, alors qu'avant tu faisais juste trois boulex à la suite, c'était pourri, tu vois. Dans Savior, tu arrives et il te dit, tiens, bah voilà, quand tu fais ton dash, ça change la propriété de tes coups spéciaux, alors essaye. Tu vois, et il t'explique ça pour tous les personnages, pour Jedha, c'est pareil, pour Felicia, c'est pareil, pour Queen Bee, c'est pareil, donc il y a quelque chose, et je suis en train de, quand j'ai vu ça au début, j'avais pas beaucoup d'espoir, un peu comme TMDJC, je me disais, est-ce qu'ils vont pas enlever ce rush, ce machin, et au final je me dis, est-ce qu'ils vont pas plutôt essayer de l'enseigner, parce que ce serait peut-être la meilleure chose à faire finalement, respecter un héritage et l'enseigner via Résurrection, ce serait quelque chose de vraiment positif, et ce qui est fait dans cette version.
On déjà, ne demande que ça. Hein.
Ouais, et puis déjà, ça apprendrait le jeu à tous ceux qui font style, qui connaissent
Moi j'ai appris
Vampire,
plein de trucs. Hein,
et en fait, connaissent rien du tout.
Voilà. Donc il y a vraiment plein de trucs à apprendre en le faisant. Donc voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait suffisamment le tour de la série Vampire, Darkstalkers.
Pour vous donner, j'espère en tout cas, l'envie de mettre les doigts dessus.
Ah ouais, carrément. On termine par un petit tour de table. Votre personnage favori, TMDJC ?
Ah, moi de très très loin, Morrigan.
Ouais.
Gallon.
Gallon, c'est le ?
Gallon, c'est le loup-garou.
Le loup-garou, ouais. QB. D'accord. Bon, bah moi, c'est Jedha. Voilà. Et Wellcook ?
Ah, Felicia.
Comme par hasard, tiens.
Et pourquoi il participe pas d'ailleurs, Wellcook ?
Bah, je sais pas, il a dit qu'il avait rien à dire, voilà. Mais tu l'as habilement remplacé.
Je n'y connais rien en jeu de baston, merci, voilà.
Non, parce que Wellcook fait partie des gens, quand il sait pas, il dit pas.
Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous les quatre hein, pour ce podcast.
Tous les cinq avec le chat.
Fort instructif. Merci cher chat d'avoir vomi derrière. Et on vous retrouve pour un prochain podcast sur Magro Point. Ce sera lequel ? Probablement la saga X-Men, les débuts de la saga X-Men.
Probablement qu'on va démarrer les X-Men. Ouais.
Voilà, X-Men ou King of Fighters. On va voir. Ça va être un sacré morceau. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a donné envie de jouer à Vampire. Jouez-y. La résurrection là, vient de commencer, on va dire. Donc, merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine. Salut.
Salut. I'm gonna go get some more.